Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, comme je vous le disais, les textes sont écrits par la mère et ils sont discutés en famille. La maman écrit et les parents, les jeunes discutent de la finale. Alors, la dernière composition est comme le résultat d'une concertation en famille et c'est en vue d'une déclamation publique. Alors, on a dit aux jeunes qu'on allait prier pour eux parce qu'on sait que telle date, dans les jours qui vont suivre, ils vont devoir faire la déclamation. Et je vais m'informer un petit peu plus tard, plusieurs jours plus tard, je vais me dire comment ça s'est passé. Alors, il y en a un qui devait se présenter dans une région du nord du Mexique où plein de jeunes du Mexique font ces concours. Alors, on nous a dit qu'il était arrivé le deuxième. Donc, c'est le petit qui a 9 ans, Juan, il est arrivé le deuxième au Mexique. Alors, c'est pas rien, ça promet. Alors, c'était des enfants éveillés, comme je vous le dis. Et là, c'est là qu'on voit l'importance des parents. Les parents qui font cœur et corps avec leurs enfants. On le sentait, on le voyait. Ils aiment leurs enfants pour, non pas pour eux-mêmes, mais justement pour que les enfants deviennent eux-mêmes. Ils ont donné la vie à ces enfants-là. C'est pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans leur liberté, évidemment. Alors, le bonheur des parents, ça se voyait. Et le bonheur des enfants avec les parents. Alors, ils vont nous donner leur témoignage. Eugénia, la dame, et Guillermo vont nous parler. Alors, on écoute, nous, et les enfants doivent entendre cela. Ils l'ont peut-être entendu, sûrement entendu, mais ils nous en parlent à nous. Alors, elle, Eugénia, dans sa jeunesse, donc autour de la vingtaine, Eugénia est incroyante. C'est une Mexicaine incroyante, une belle tête. Incroyante. Et voilà qu'elle se retrouve dans un voyage, une JMJ. Vous savez, les JMJ? On parle des Journées mondiales de la jeunesse, eh bien, il y a des jeunes qui vont au JMJ et ils y vont parce qu'ils y vont. C'est le mouvement, ils ne sont pas croyants. Mais parce qu'un ami, une amie en fait partie. Bon. Alors, Eugénia est partie comme cela, à Rome. Et elle a eu le bonheur de rencontrer Jean-Paul II. Personnellement, là, avec des jeunes. Et Jean-Paul II lui a dit « Va ». Et ça lui est entré dans le cœur. Va. Alors, les jours qui vont suivre, elle est prise par cette rencontre avec Jean-Paul II, le pape, qui lui a dit « va ». Et c'est le début d'un processus de conversion profonde. Alors, elle va revenir chez elle. Les parents sont très, très inquiets, parce que les parents sont agnostiques, les parents sont aussi incroyants. Alors, ils sont très inquiets de voir revenir leur grande fille avec des dispositions complètement différentes. Elle s'est convertie et elle croit et elle prie et elle fréquente des mouvements. Ça ira tellement loin, elle nous le raconte avec le sourire, que les parents vont faire même appel aux policiers pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer lorsqu'elle fréquente tel groupe. Alors, les policiers vont tout simplement leur dire, écoutez, c'est un groupe de jeunes, c'est un groupe de jeunes chrétiens. Alors les parents sont vraiment désemparés de voir comment leur fille est en train de tourner. Mais la grâce du Seigneur va passer par leur fille Eugénia pour atteindre les parents. Les parents vont se convertir à la foi, plusieurs années après. Et ils ont eu leur famille, ils ont eu leurs enfants, ils sont mariés civilement. Et sur le tard, les parents vont se marier religieusement, dans l'église. Le monsieur s'appelle Moïse. C'est drôle, hein? Moïse, et la dame s'appelle Thérèse. Moïse, incroyant, et Thérèse, incroyante, qui, par leur fille Eugénia, vont découvrir la foi. Et j'ai rencontré Moïse et Thérèse. Ils étaient heureux. Il y avait du bonheur dans cette famille. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Il se mit donc en route, ayant atteint le grand pin. Il tourna vers la droite et poursuivit son chemin. La brume s'était un peu dégagée et courait légèrement entre les arbres. C'est dans cette ambiance de conte de fées que le chant de la chute parvint doucement à ses oreilles. Après quelques pas, il la découvrit dans toute sa splendeur. La grotte était bien cachée. Personne ne pouvait en deviner l'existence. Une angoisse l'envahit comme un mauvais frisson. Longtemps, il resta devant la chute, immobilisé par la crainte et l'hésitation. Qu'allait-il découvrir dans cette mystérieuse grotte? Il lui fallait vivre là tout le jour sans sortir? Le visage de Pépé Antoine lui revint à l'esprit, et au fond de son cœur, il se redit les paroles qu'il avait tant de fois soutenues. C'est le seul combat qui compte. On aurait dit que seul derrière lui résonnaient ces paroles dans l'infini. Petit-Jean crut les entendre venir de la grotte. Une dernière fois, il regarda tout autour, puis, contournant ce voile d'eau qui tombait de la chute, il parvint à l'entrée de la grotte. Sorti de la lumière, il fut subitement plongé dans l'obscurité la plus totale. Petit à petit, cependant, il se mit à pouvoir distinguer des formes et les dimensions de la grotte. Tout à coup, il entendit un bruit et se précipita vers la sortie. Mais non. Une fois entré, plus question de sortir. C'était la consigne. Celle de la dame de la montagne, celle de Pépé Antoine, celle de Petit-Jean. Il s'arrêta et entendit le bruit passer près de lui pour sortir de la grotte. Une bête quelconque, sans doute. Le cœur de Petit-Jean battait bien fort, mais il se replongea tranquillement vers l'intérieur de la grotte qu'il distinguait de mieux en mieux. Tranquillement, il fit quelques pas et se mit à toucher les pierres un peu partout. La crainte ne le quittait pas, comme il aurait voulu se voir ailleurs. Mais il fallait y rester, et pour combien de temps? L'humidité envahissait l'intérieur de la grotte, et rien pour s'asseoir. Petit-Jean se mit à murmurer au-dedans. Il n'était pas content. La rage le prit, et il se mit à hurler de toutes ses forces. « C'est fou! C'est fou d'être ici !» Et se prenant la tête avec ses deux mains, il criait toujours « C'est complètement fou d'être ici! Je suis fou! Je suis fou !» Et trouvant une grosse branche là, sur le sol devant lui, il la saisit et se mit à tournoyer en frappant les pierres et ne cessant de crier. Il était hors de lui. Et brisant la branche qui volait en éclats, il se retrouva par terre à genoux. Il criait et sanglotait.
« Je suis fou! Je ne veux plus de cette montagne! Je ne veux plus !»
le visage contre terre, il disait à demi-voix.
« Mon village, mon père, ma mère. »
Il resta longtemps ici, accroupi comme une bête prise dans un filet. D'orage passé, il se releva et regarda de l'intérieur l'eau qui tombait joyeusement devant l'entrée de la grotte. Il se rappela qu'enfant, il dessinait sur la roche avec des pierres. Il en prit une et il se mit à écrire son nom en grosses lettres, et ensuite celui du vieux Pépé. La grotte lui semblait moins anonyme ainsi. Trouvant des morceaux de bois, il les rassembla pour s'en faire une couche. Impossible de s'asseoir ou de s'étendre ainsi par terre, ou sur les pierres qui faisaient comme une petite table appuyée sur le côté droit de la grotte. Combien de temps lui faudrait-il habiter là? Comme il aurait aimé que tout soit terminé tout de suite, et qu'il puisse remonter à toute vitesse jusqu'à la petite chaumière. Chaque minute lui paraissait une éternité qu'il supportait lourdement. Ce temps qu'on lui avait présenté comme un ami l'étouffait maintenant. Puis, difficilement, il parvint à se résigner et à relever cet étrange défi. Comme un forçat au cachot, il lui fallait rester là et faire son temps. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.